dédie, je consacre cette émission aux jeunes de 16 à 19 ans, parce que, d'après toutes les recherches les plus sérieuses qui sont faites autour du personnage de Saint-Joseph, on peut en arriver à la conclusion, et je vous le montrerai tout à l'heure, que Joseph avait 18 ans. Oui, à peu près, 18 ans. Il serait né en l'an 25 avant notre ère. Et ce serait beaucoup plus logique, et ce serait beaucoup plus intéressant d'ailleurs, de parler de Joseph comme d'un homme de 18 ans qui a déjà la maturité d'un jeune juif, et qui prend soin de Marie, qui a 15-16 ans, et qui est appelée à être la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, la mère de Jésus. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il est difficile de vraiment connaître la date de la naissance de Saint-Joseph. Il n'y a aucun document qui nous précise cela. Tout ce qu'on peut faire, c'est de supposer à peu près son âge quand il a épousé la Sainte Vierge. Après une longue série de déductions qui nous fournit certains indices, là, on pourrait peut-être dire il est préférable de garder le silence sur cette question, mais je crois pas. Je crois que ce serait très intéressant d'arriver à une conclusion tout à fait probable et presque sûre, à savoir que Saint-Joseph serait né en l'an 25, comme je vous l'ai dit, avant l'ère chrétienne. Alors, il faut d'abord savoir que notre calendrier, vous le savez, on vous l'a souvent dit, notre calendrier se trompe lorsqu'il fait commencer l'ère chrétienne à l'année 1-1. Il y a là une espèce de faute historique qui n'est pas très tellement grave. C'est que les premiers chrétiens, nos ancêtres, calculaient les années selon le système que l'on appelle AUC, c'est-à-dire Ab Urbe Condita. Ça se rapporte à la date légendaire de la fondation de Rome, de l'Empire de Rome. Or, le changement s'est fait que quelques 500 ans après le début de l'ère chrétienne, le pape avait demandé à un spécialiste de recalculer la date de la naissance de Jésus. Et ainsi, lorsqu'on a commencé à dater les années à partir de la naissance du Christ, on avait commis une erreur. Et on peut la rectifier maintenant. Ce dont nous sommes certains, c'est de ceci. Voilà. Notre Sauveur Jésus est né un peu après l'an 8, avant Jésus-Christ ou avant notre ère, si vous voulez. C'est une date approximative du recensement romain que mentionne Saint-Luc, l'évangile de Saint-Luc, et un peu avant le printemps de l'année 4, avant Jésus-Christ ou avant notre ère, l'année où est mort Hérode le Grand, qui vivait à la naissance de Jésus. Puisque Hérode vivait à la naissance de Jésus et qu'il est mort en l'an 4, avant notre ère, donc, c'est donc signe que Jésus est né quelques années avant. Il y a eu une petite erreur. C'est pas grave, cette erreur, mais c'est intéressant tout de même de la calculer. Il y a d'autres considérations, comme l'âge de Jésus au début de sa vie publique. Il y a aussi les annotations sur la visite des mages, la veillée de Noël avec les bergers, qui laissent supposer que c'était alors vraisemblablement l'époque où naissent les agneaux, donc le printemps. Mais ça fait plutôt croire que l'année probable de la naissance de Jésus a été en l'an 6 avant Jésus-Christ. Je ne vous donne pas tous les détails, mais c'est tout de même intéressant. Et là, l'Annonciation, qu'on va fêter lundi prochain, aurait eu lieu 9 mois plus tôt, soit en juin de l'an 7 avant l'ère chrétienne. Et puisque selon certaines probabilités, c'était dans le 8e mois des épousailles là, de Marie et de Joseph qu'est survenu l'Annonciation. Oui, 8 mois après leurs épousailles, l'ange est apparu à Marie. Alors, il faut en déduire que ces épousailles peuvent avoir pris place aux environs de novembre de l'an 8 avant notre ère. Ce sont des suppositions, mais ce sont des suppositions fort intéressantes sur lesquelles se sont penchés de grands spécialistes de la vie de Saint-Joseph et, évidemment, de la vie de Jésus et de Marie. Alors, la découverte des documents de la mère morte, souvenez-vous, c'était une découverte extraordinaire qu'on a faite il y a quelques dizaines d'années. Des documents très anciens, qui étaient gardés dans des grottes près de la mer morte, en Israël, en Palestine. Mais cette découverte nous a fait prendre connaissance de certaines coutumes juives. Et c'est là que c'est intéressant. Les coutumes juives de cette époque-là, que nous ignorions, par exemple, dans la secte conservatrice des Esséniens qui vivaient là, près de la mer morte, une secte conservatrice, c'était une espèce de... presque une congrégation religieuse, hein? Vous y êtes allé, j'espère, visiter les ruines de ça, c'est très, très intéressant. Alors, le jeune homme de cette secte pouvait retarder son mariage jusqu'à ce qu'il ait au moins 20 ans. On considérait ça âgé. En d'autres termes, c'était à peu près l'extrême, ça, 20 ans. Ça peut sembler curieux, mais il faut dire aussi que les gens ne vivaient guère plus vieux que 35 ans. En moyenne, c'était la moyenne d'âge pour la mort. Ça nous est confirmé par la loi rabbinique qui statuait qu'un homme devait être marié avant sa 18e ou sa 19e année. Et si nous appliquons ces règles à Saint-Joseph, mais son mariage indiquerait donc qu'il serait né vers l'an 25 avant notre ère, pour pouvoir se marier vers l'âge de 18-19 ans. C'est pour ça que je vous ai dit que je dédiais cette émission aux jeunes garçons de 17, 18 et 19 ans. Vous avez là un modèle, les jeunes, un vrai modèle. Le modèle d'un homme qui est sérieux, qui a une tête sur les épaules, qui a déjà un métier. Cette conclusion, évidemment, que Joseph n'avait pas plus de 18 ans lorsqu'il a épousé la Sainte Vierge, ça peut heurter violemment beaucoup de gens. On a des traditions anciennes, populaires, là, qu'on a au fond de tout notre être, et quand on les renverse, on se sent mal à l'aise. Ça fait des siècles qu'on a fait de notre saint un vieillard, un homme très avancé en âge. Mais il existe bien des éléments si intéressants sur l'âge de Saint-Joseph et sur la dévotion qu'on lui porte, qu'il me semble qu'il est très important de s'y arrêter quelque peu. D'ailleurs, l'Évangile ne nous donne pas d'explication à ce sujet. Nos premières sources sont 3 ou 4 légendes apocryphes. Vous savez, je vous ai souvent parlé des Évangiles apocryphes. Des Évangiles qui ont été écrits beaucoup plus tard. Des récits de la vie de Jésus remplis de choses très étranges, mais qui ont peut-être des vérités qu'on doit respecter jusqu'à un certain point. Alors, il y a des légendes qui concerne l'enfance de Jésus. Ce sont des histoires pieuses. Et ça continue l'histoire que l'on trouve dans les évangiles proprement dit, qu'on a dans le Nouveau Testament. Il est possible, en théorie, que ces récits aient pu recueillir tout d'abord des données exactes, si on peut dire, d'une tradition qui n'était pas contenue dans nos évangiles. Bon, mais à mesure que le temps passait, ils ont été plus ou moins travaillés, ces évangiles apocryphes. Ils ont été augmentés de toutes sortes d'histoires abracadabrantes, de telle façon qu'on ne pourrait les considérer aujourd'hui comme des témoignages qu'on peut croire. Ces récits, je vous l'ai dit, peuvent avoir une certaine valeur. Ils reflètent des croyances qu'on avait dans ce temps-là. Ils peuvent aussi satisfaire une curiosité plus ou moins pieuse. Quelques-uns de ces textes apocryphes, d'ailleurs, pour bien le souligner, étaient de tendance hérétique, relevaient des hérésies du début de l'Église, dans les premiers siècles. Ils ont été, certains d'entre eux, composés en vue de soutenir les chrétiens qui s'étaient séparés de l'Église. C'était comme une sorte de cinquième évangile qui combattait les 4 premiers, peut-être. Alors, la première fois qu'on parle de l'âge avancé de Saint-Joseph, c'est dans le protévangile de Jacques qui circulait ce vers l'an 150. Ce manuscrit, qui, disons que c'est d'environ 20 pages dactylographiées, si on l'a dactylographié aujourd'hui, évidemment, 20 pages de 25 lignes. Voyez-vous, c'est pas bien long. Mais ce manuscrit, le protévangile de Jacques, commence par la prière des parents de la Sainte Vierge, qui demande à Dieu de leur donner des enfants, et qui se termine avec le massacre des innocents. Or, comme son nom l'indique, l'auteur en serait, ce qui est impossible, l'apôtre Saint-Jacques. C'est Saint-Jacques le mineur. Hein? Voici ce qu'il y est dit sur Saint-Joseph. C'est très étrange. Mais c'est de là que viennent nos impressions que Joseph était très âgé, avait une grande barbe blanche, et il avait 4 fois l'âge de la Sainte Vierge. Ça n'a pas de sens, hein? « J'ai des enfants et je suis vieux, et elle, c'est une jeune fille. Je crains de devenir la risée des fils d'Israël. » Bon, ça veut donc dire que Saint Joseph aurait eu des enfants, qu'il est vieux, la Sainte Vierge, une jeune fille, puis il a peur d'être la risée des fils d'Israël en étant choisi comme le père adoptif, si on veut, de Jésus. Environ 3 siècles plus tard, cette idée est développée dans une autre légende, c'est l'évangile du pseudo-Matthieu. On trouve ça dans des publications, hein, c'est un volume des évangiles apocryphes. Hein. Je vous conseille pas de lire ça, c'est rempli de choses plus ou moins bracadabrantes. Alors donc, dans ce texte d'un pseudo-Matthieu, un texte 2 fois plus long que l'autre, là, c'est écrit, « Il arriva que Joseph apporta son bâton avec d'autres jeunes gens, mais étant âgé, il avait été repoussé. Encore, on dit, « Je suis un vieillard et j'ai des enfants, encore une fois. Hein. Pourquoi me remettre ce bébé qui est plus jeune que mes petits-enfants? » Que mes petits-enfants. Pas que mes enfants, mais que mes petits-enfants. Et finalement, « Alors tout le monde congratula le vieillard, disant, « Tu as été béni dans ton vieillage, ô Joseph. » En somme, le thème de toutes ces légendes autour de Saint-Joseph, était bien établi, petit à petit. Aussi, on n'est pas surpris de trouver ces chiffres fantastiques. Je vous raconte ça pour vous faire rire un peu. Ils sont pris dans l'histoire de Joseph le charpentier. C'est une histoire qui vient d'Égypte. Ça, c'est les Coptes des chrétiens qui ont écrit ce livre il y a très, très longtemps. On dit « Joseph se maria à 40 ans. Il devint veuf à 89 ans. Il reçut il s'est marié pas avec Marie, là, à 40 ans. Il s'est marié à 40 ans. Ça n'a pas de sens. Les Juifs se mariaient avant 20 ans. Vous avez vu, hein? Bon, se maria à 40 ans. Devint veuf à 89 ans. 89 ans, dit le texte copte. Reçut Marie comme sa protégée à 91 ans. Et mourut à l'âge avancé de 111 ans. Oui, c'est des histoires insensées. Bon. Alors, le Moyen-Âge a connu une espèce de recrudescence de piété envers la personne du Christ. C'est curieux, hein? Oui, au Moyen-Âge. Ce qui a entraîné une dévotion particulière à la Sainte Vierge. On pouvait donc faire autrement que s'intéresser en même temps à Saint-Joseph, ça va tout ensemble. Et les évangiles ne pouvaient permettre de remplir les longs récits poétiques dont le... Qui était rempli de révérence envers la Sainte Famille. Alors, on s'est adressé aux légendes, dont je vous ai parlé un petit peu, et puis il y a bien d'autres légendes. Puis, bien, le vieillard Joseph s'est inséré dans le tableau. On a rejeté les éléments qui paraissaient bizarres et grossiers, on a agrandi et grossi le côté romantique et tendre, mais malheureusement, on serait ça encore aujourd'hui, de ces espèces de contes, de ces histoires plus ou moins bracadabrantes. Et sachons d'abord que, jusqu'au Moyen-Âge, aucune dévotion n'existait envers Saint-Joseph. Je vais vous expliquer pourquoi. En employant le mot dévotion, ici, je veux simplement attirer l'attention sur le saint, hein, en tant que coopérateur dans le mystère de l'incarnation. Hein, et par conséquent, dans celui de la rédemption, Saint-Joseph est au cœur, hein. L'obscurité dans laquelle Saint-Joseph était resté, ça conduisait en quelque sorte à le considérer comme un vieillard. Mais le fait qu'on s'était si peu occupé de lui signifiait bien qu'on n'avait rien, mais rien compris des hauteurs sublimes de sa vocation. sa vocation surpassée seulement par celle de Marie. Cette vocation de Saint-Joseph, comment la juger? On n'a pas hésité à lui donner la place la plus petite, qui pouvait cadrer avec les textes des Évangiles. On ne s'est pas aperçu? Non, on ne s'est pas aperçu que ce vieillard se promenait plutôt loin de la voie que Dieu avait tracée pour le vrai Saint-Joseph, le vrai de vrai. Toutes ces hésitations ont laissé notre Saint-Joseph à l'arrière-plan pendant tant de siècles. Ça aboutit à l'image de ce vieillard qui figure dans les tableaux depuis cette époque. Il y en a un au Collège de Montréal. Saint-Joseph est tellement vieux qu'il a l'air de l'arrière-arrière-grand-père de Jésus. Et il tient évidemment un lys dans sa main. Je me souviens, je vous l'ai raconté en sortant de la messe il y a bien très longtemps. Ça, c'était au début des années 70. Je venais d'adopter mon fils Guy qui avait 19 ans, je crois, 20 ans à ce moment-là. Et comme il y avait encore du monde qui allait à la messe à cette époque, on sortait lentement de l'église, il y avait eu le temps de regarder le tableau. Et il me dit, qui c'est ce vieux bonhomme-là? Alors, j'ai dit, on dit pas ça, le vieux bonhomme. J'ai dit, c'est Saint-Joseph. Mais c'est qui, ça, Saint-Joseph? Ben, j'ai dit, c'est le père de Jésus. Il me dit, je comprends rien tes histoires, papa. Il dit, tu me dis toujours que le père de Jésus, c'est le bon Dieu, puis il est son père depuis toujours, toujours. T'arrêtes pas de dire toujours, toujours dans ce temps-là. Ah, ben, j'ai dit, le père de Jésus au ciel, quand il a décidé que Jésus viendrait sur la terre pour nous parler, puis nous dire combien il nous aimait, ben, ça, il l'a fait naître de la Sainte Vierge, ça prenait un père adoptif, et puis ils ont choisi Joseph, qui était le meilleur des meilleurs comme père adoptif. Oh, il dit, Jésus aussi avait un père adoptif comme moi. Oh, ben, il dit, Jésus, bien plus intéressant que je pensais. Pauvre Guy. Mais oui, il est au ciel maintenant, j'espère bien, depuis près de 2 ans. Alors, c'est quand même un progrès. L'image de Saint-Joseph par rapport au silence dans lequel on l'avait tenu. Mieux vaut avoir enfin un vieillard que rien du tout. Mais ça ne corrigeait pas les négligences du passé, alors il y a plus encore autant des persécutions de l'Église primitive. Vous savez, on honorait particulièrement les martyrs. Alors, Joseph n'était pas un martyr. Alors, il semblait appartenir plutôt à l'époque préparatoire là, de l'Ancien Testament. On le rejetait dans l'Ancien Testament. Plutôt que dans celle de l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire le Nouveau Testament, puisqu'on calculait qu'il était probablement, vraisemblablement mort avant la vie publique de Jésus. Puis il y a eu les hérésies contre la Sainte Trinité et l'Incarnation dont je vous ai parlé souvent, l'arianisme, etc. Ça a mobilisé toutes les forces des hommes d'Église, c'est-à-dire les pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église, les évêques, etc., les théologiens de l'époque. Alors ceux-ci devaient combattre pour sauvegarder les vérités fondamentales de la foi catholique. Puis on peut comprendre qu'ils ne pouvaient pas en même temps s'occuper d'un saint, même si son importance était énorme. Alors son importance a été incomprise. Et voilà pourquoi pendant si longtemps, on a mal apprécié la véritable dignité de Saint-Joseph. Dans le cas de Marie, bien son culte était manifestement beaucoup plus lié à l'honneur rendu à Jésus. Et dans l'ordre de la Providence, du dessein de Dieu, bien, la maternité de la Sainte Vierge, c'est une preuve de la divinité de Jésus. Mais pour Saint-Joseph, on pouvait considérer sa position vis-à-vis de Jésus et de Marie comme plutôt ambiguë. Lorsque les hérétiques dans les premiers siècles proclamaient que Jésus n'était pas une personne divine, qu'il était le fils naturel d'une femme qui avait usé des liens du mariage avec son mari, mais les pères de l'Église tenaient évidemment par force Joseph quelque peu à l'écart. Ils l'éloignaient, eux autres, dans l'imaginaire, pour garder la virginité de Marie dans l'imaginaire des gens. Sa position comme époux virginal de la Sainte Vierge et par conséquent comme père de Jésus, dans le sens spirituel et non physique là, du mot, était trop délicate, c'était trop sujet à toutes sortes de mauvaises interprétations. Mais aujourd'hui, là, le silence prudent des premiers temps du christianisme est terminé. Nous pouvons tirer Saint-Joseph de l'ombre avec la même force que nous repoussons l'hypothèse de son âge avancé. Me semble que l'évidence est là. Je vous ai déjà dit que les évangiles ne laissent jamais supposer qu'il s'agissait d'un vieillard. Ils disent rien dans les évangiles à ce sujet. Les légendes apocryphes s'amusaient à donner des détails prétendument historiques. Tout ça dans un but religieux, il s'agissait de polémiques, là, non pas d'histoire. Il fallait avant tout être édifiant. Et ce dogme de la virginité de Marie, il fallait le protéger à tout prix. Pour ne laisser aucun doute sur la divinité du Christ, alors on vieillissait Saint-Joseph, on le rendait impotent, disons. Et c'est pourquoi on allait jusqu'à nier l'existence d'un mariage, même entre Joseph et Marie. On dépeignait même la Sainte Vierge comme une protégée simplement de Joseph, contrairement à ce que disent les évangiles. En imaginant un homme si vieux qu'il était mort à toute passion, à tout désir charnel, comment supposer qu'il ait pu être le père naturel de Jésus? Alors voilà, c'était simple, c'est ça qu'on a fait. On oubliait que la grâce, oui, la grâce de Dieu, suffisait à préserver la virginité de Joseph mieux que toute limite d'âge. Oui, la grâce de Dieu est forte. Pensez à des couples comme Jacques Maritain, Raïcha Maritain, qui ont vécu dans l'amour et dans la chasteté la plus totale. Au XXe siècle, il y a une conférence ce soir sur Raïcha Maritain au Centre Christus à 19h30, au coin de Beaubien et Christophe Colomb. Or, on oubliait donc que la grâce de Dieu suffisait. Et ce faisant, on détruisait les vérités qu'on voulait affirmer. Et en effet, si son âge avancé avait empêché Saint-Joseph d'engendrer Jésus, Marie serait apparue comme une femme adultère et son divin fils comme un fils illégitime. Alors, nous savons que les pharisiens haïssaient Jésus. Ils cherchaient tous les moyens de salir sa réputation, mais tout en critiquant l'infériorité de ses origines, ils n'ont jamais fait allusion à une telle inconvenance. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils prenaient Saint-Joseph pour le fils de Joseph. C'est-à-dire qu'ils prenaient Jésus plutôt pour le fils de Saint-Joseph, qu'on qualifie de charpentier. Et qu'ainsi, ils pouvaient croire que Jésus soit l'ambassadeur divin. Ils ne pouvaient pas croire ça. Soit l'ambassadeur divin. Comme il disait qu'il l'était, les Juifs murmuraient contre lui. Ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? C'est dans Saint Jean, chapitre 6. Alors, il fallait que Joseph soit vigoureux pour accomplir le long voyage en Égypte avec Jésus et Marie, pour entretenir surtout la Sainte Famille pendant 30 ans. De tout cela, on peut conclure que si Joseph avait été un mari sénile, sa présence comme chef de famille aurait été fort suspecte, au lieu d'entourer le secret de l'incarnation, de la protection et du mystère que Dieu désirait. En somme, en résumé, d'après les nécessités de sa vocation, telles que nous les lisons dans l'Évangile, on peut dire que Saint Joseph s'est marié à un âge normal, 18-19 ans, et la Sainte Famille était considérée comme une famille normale, selon les usages du temps. Joseph, donc, à 18 ans, a épousé Marie, qui devait avoir 2 ou 3 ans de moins, et logique confirmée d'ailleurs par le contexte de l'Évangile de Saint-Luc. Saint-Luc, quand il parle de la naissance du Christ, fait état de 6 personnes, n'oubliez pas, hein, Zacharie, Élisabeth, Anne, Siméon, Marie et Joseph. Il décrit Zacharie, Élisabeth et Anne comme étant avancés en âge. Quand il parle de Siméon, qui attendait pour mourir et s'en aller en paix d'avoir vu le Christ du Seigneur, il signifie que lui aussi, évidemment, est âgé, et pour Marie et Joseph, rien de semblable. C'est un couple normal qui commence sa vie en commun. L'homme et la femme s'étant mariés, comme n'importe quel couple, selon l'âge adopté par les coutumes du pays, c'est-à-dire avant 19-20 ans. Et c'est ainsi qu'on peut mieux voir la Sainte Famille, un jeune couple, mature, comme on dit aujourd'hui, avec le plus beau des enfants. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, à la messe, selon saint Matthieu, chapitre 1, il est dit qu'il avait décidé, saint Joseph, de répudier Marie parce qu'elle était enceinte. Alors, il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit,
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui libérera, en somme, qui nous libérera de nos péchés, nous donnera des ailes. Et j'aime bien la fin de cet évangile. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il y a 15 siècles, Saint Jean Chrysostome admirait avec enthousiasme la foi de Saint Joseph, son obéissance sans murmure, cet amour désintéressé et libre de toute jalousie qu'il a pu éprouver envers la Sainte Vierge. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, je pense qu'on ne saurait trop insister sur cette figure de Saint Joseph, un juste, un croyant, un obéissant. Obéir, c'est pas de la bêtise. C'est presque un mot qui est tabou aujourd'hui. On ne veut plus entendre ce mot-là. Pourtant, c'est un mot qui fait grandir quand l'obéissance est saine et intelligente. Je trouve qu'on doit être sensible au côté humain de Saint Joseph comme chef de la Sainte Famille. Il n'y a pas chez lui toutes les austérités terrifiantes qu'on prête à certains saints dont je vous parle de temps en temps. D'ailleurs, les détails que je vous raconte sont parfois, je suppose, forgés par des biographes du Moyen-Âge ou même d'avant. Des biographes qui veulent que leur héros, le saint dont ils écrivent la vie, soit conforme à l'idée qu'ils se faisaient eux-mêmes de la sainteté, selon une espèce de moule. Je crois que les biographes modernes en arrivent d'ailleurs à rectifier les inventions des siècles passés, mais compte tenu des exagérations possibles, il reste que de nombreux saints dont nous admirons tant la générosité et l'amour de Dieu, que par prudence on ne peut pas imiter, on a du mal à les aimer, mais ce n'est pas le cas pour Saint Joseph. Prenons le cas d'un saint. J'ai lu sa vie. Son biographe le décrit abîmé dans une prière continuelle. Une prière continuelle. C'est exagéré. Il fuit les jeux dès son enfance. Bon, il n'aime pas jouer, même s'il est petit. Il est mis de côté par ses jeunes camarades, tant sa piété est ostentatoire. Pauvre garçon. Et plus tard, ils ont dit de sa vie, toujours brillant dans ses études. Jamais, il rate un examen ou quoi que ce soit. C'est fort. Il ne perdait jamais son temps en récréation d'aucune sorte, dit-on. C'est tellement exagéré, c'est vite saint. Il ne parlait jamais que dans les occasions les plus nécessaires. Il mangeait toujours la plus mauvaise nourriture, et cela même en toute petite quantité. Il prétendait, enfin, qu'un mot dit à autrui est toujours un mot volé à Dieu. C'est épouvantable, ce genre de spiritualité, Alors, comment un chrétien ordinaire comme vous et moi, vous, peut-être pas tous, là, mais en tout cas comme moi, pourrait imiter une telle perfection, c'est impensable. D'ailleurs, c'est très dangereux, cette espèce de piété. Ça existe un peu partout dans des tas de livres, et c'est bien dangereux. Le raisonnable usage là, des plaisirs du corps, de manger, je viens de manger tout à l'heure une belle orange, oh, qu'elle était bonne. C'est un beau plaisir. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. De la vitamine C, c'est très bon pour la santé. Ça fait partie du plan de Dieu, ça. Il fait pas pousser les oranges pour rien. C'est Dieu qui nous donne les oranges. Il a établi tout ça dans l'ordre de la création. Et c'est ainsi que les plaisirs du mariage sont parmi les plus grands et les plus profonds. Et je n'ai certainement pas l'intention ni de critiquer d'une part l'austérité des saints, ni vouloir qu'on se permette n'importe quoi. C'est pas ça. Je veux simplement dire qu'il est difficile d'imiter les saints qui font des choses plus ou moins abracadabrantes. Je crois qu'une imitation directe de leur conduite serait absolument contraire au devoir de notre état de vie ordinaire, à nous les laïcs en tous les cas. Disons bien que ce qui sanctifie, ce qui ennoblit finalement leurs actions, et que celle de tout homme, de toute femme et tout enfant qui veut se perfectionner, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait la grandeur des saints, même les plus étranges. C'est pas parce qu'ils ont fait des choses fantastiques, c'est parce que leur volonté était conforme à celle de Dieu. C'est-à-dire, leur amour était uni à celui de Dieu. Et là réside, pour chacun d'entre nous, pour tout individu, c'est la loi ultime qui mène à la perfection. Je dirais même que l'austérité, là, les gens qui font toutes sortes de pratiques austères, ça sert à rien en soi. Il faut qu'il y ait l'amour au creux de ces austérités. Au fond d'un jeûne difficile, au fond d'une station à genoux quand on fait le chemin de la croix, au fond d'un long pèlerinage à pied où on a mal aux pieds. Je suis pas contre du tout, au contraire, je l'ai fait et je le ferai encore. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas le désir, il n'y a rien, c'est vide. C'est saint Paul qui dit que si on n'a pas l'amour, nous sommes comme des cymbales retentissantes. Obéir à ce que Dieu veut, et Dieu ne veut rien d'autre que l'amour. Bien voilà ce qui doit sanctifier chacune de nos actions. Et c'est ici qu'il faut vraiment regarder l'exemple de saint Joseph. Par son intimité avec Marie et Jésus. Imaginez, il vivait avec eux pendant probablement une trentaine d'années. Par l'élévation aussi de sa vocation à laquelle il a été appelé par Dieu. Mais saint Joseph a vécu une vie conforme à la volonté de Dieu, tout simplement. La vie la plus parfaite après celle de Marie. La chose la plus extraordinaire, d'ailleurs, à leur propos, c'est le fait que ces deux êtres humains, les plus saints qui furent jamais, Marie et Joseph, aient été considérés tout simplement comme un couple ordinaire de villageois palestiniens, ou de villageois juifs, si vous préférez. Ils participaient tout simplement à la vie quotidienne des gens de Nazareth où ils ont vécu. Ni participer aux conversations sur la place du marché. Ben oui, il devait parler de la pluie et du beau temps. Il devait parler même probablement à l'occasion de l'indépendance du peuple juif par rapport aux Romains. Ça circulait beaucoup à leur époque. Il parlait des questions politiques, sociales, du temps qu'il fait, de ceux qui manquaient de quelque chose. Il participait au mouvement puis au bourdonnement de l'atelier de Saint-Joseph, à toutes les activités domestiques, puis ils avaient beaucoup de délicatesse, beaucoup d'amour. Le comportement de Saint-Joseph ne devait pas le faire remarquer spécialement. Rien de particulier, rien d'inhabituel. Et selon les coutumes du temps, Marie devait rester davantage à la maison, mais lui, Joseph, il devait sortir. Il devait voir ses clients, il fabriquait quoi? Vous savez que le mot traduit par « charpentier » désigne à l'époque tout homme qui travaille le bois. Un scieur, un ébéniste, un sculpteur, mais aussi bien qu'un constructeur de maisons ou d'instruments agricoles. Probable que Joseph devait être assez polyvalent, hein? Il est bien clair que les évangiles n'ont pas cherché à nous renseigner sur sa vie, son métier ou sa psychologie. Mais on peut la deviner facilement, dans l'ordre des choses, sans inventer. Il n'y a pas d'invention, c'est simplement des conclusions. C'était le seul homme de toute la race humaine, qui, parce qu'il avait été choisi, pour être le père virginal, le père adoptif de Jésus, et l'époux virginal de la mère de Dieu, bien il a reçu de très grande grâce, c'est évident. La conformité là, de sa volonté à la volonté de Dieu était du même ordre que l'absolue dévotion de son épouse, Marie. Ça devait aller jusqu'à l'ordre du martyre de soi, dans un sens, hein, sans qu'il y ait de sang versé. Mais un martyre si complet, dans le beau sens du mot martyre, là, prenons ça dans le beau sens positif. Hein. Vous savez, les parents aujourd'hui, là, cette nuit, qui se sont levés pour consoler leur enfant qui criait, qui pleurait. Il y a une forme de martyre là-dedans. Cette femme qui nous a téléphoné hier après-midi pour nous parler de son mari diacre qui souffre beaucoup d'une paralysie. Ils sont tous les deux martyrs dans leur amour. Il n'y a pas de sang versé, mais c'est un martyre si complet chez Saint Joseph que nous avons du mal à le saisir dans toute son étendue. Et cependant, pour ses concitoyens, ce n'était que le charpentier Joseph, tout simplement. Et le fait de garder aussi intact le secret là, de l'incarnation du Fils de Dieu, il savait, lui, ça faisait partie de sa vocation, mais il n'en parlait pas. Et dans ce but, il a vécu une vie pleine de réserve. Lui dont la sainteté était si élevée. Et c'est donc là une vie qui peut être imitée, car elle ne montre rien de surprenant. C'est une vie pour nous, les hommes. Voilà un modèle. On en cherche un. Il est là. Sa vie tient dans l'exécution des devoirs tout simples de chaque jour, mais dont l'exigence extraordinaire dans ce cas était connue de Dieu seul. L'humanité de Joseph est pour nous particulièrement attachante à cause des doutes qui l'ont assailli, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il a appris que son épouse était enceinte, sans qu'il en ait connu encore la cause miraculeuse. Et comme les incompréhensions sont fréquentes chez nous, et comme nous en souffrons, hein, un mot maladroit prononcé accidentellement, là, sans intention malveillante, ça nous blesse. Hein. Les réactions d'une maladie chronique ou de la fatigue, toute chose qu'on ne peut expliquer à la personne que l'on a peinée aussi, ça nous peine nous-mêmes. Peut-être même de bonnes actions qu'on accomplit, elles sont prises pour autre chose, et ça, ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein? Cela et bien d'autres choses semblables peuvent conduire à des malentendus entre ceux qui s'aiment, entre des parents, des camarades, entre mari et femme. Et dans le cas de Marie et Joseph, il ne faut pas oublier que l'incompréhension venait directement de quoi? De l'action miraculeuse de Dieu que nous allons célébrer lundi prochain, le jour de l'Annonciation. C'était compris, ça, dans le plan divin, qu'une telle incompréhension existe parce que la perplexité de Joseph devant l'état de sa femme, de son épouse, c'est l'une des plus grandes preuves de la maternité virginale de la Sainte Vierge. Hein? Mais à ces moments d'agonie, lorsque Joseph a connu ce dilemme, aucun ange n'est venu consoler le cœur brisé de Saint Joseph. Dieu l'a laissé souffrir, tout comme il a laissé souffrir Marie, jusqu'à ce que, selon les plans étranges et indéchiffrables de l'amour divin, un ange vienne enfin apporter l'explication qui allait rapprocher de nouveau deux cœurs qui s'aimaient tant, Joseph et Marie. Et si la conduite de Marie et de Joseph pendant ce temps-là est impressionnante et frappante, elle doit surtout nous servir de modèle. Nos couples se séparent, nos couples augmentent une dispute en haine, alors que ça devrait être approfondi dans le pardon, dans l'étreinte amoureuse. Des gens qui s'aiment se séparent, je trouve ça épouvantable, parce qu'ils ne veulent pas se pardonner. Que de couples seraient heureux s'ils savaient vivre ensemble, hein? Marie ne pouvait pas ne pas garder le silence en ce qui concernait l'incarnation. Nous en ignorons la raison, mais elle sentait de toute évidence qu'elle ne pouvait pas parler. Et Joseph, lui, c'est le seul moment de sa vie auquel les premiers chrétiens se sont intéressés. Son culte est resté dans l'ombre, et d'une manière toute naturelle, sans doute par crainte de cette situation unique de père et d'époux, soit considéré sous un faux jour, hein. Mais quand il s'agit d'apprécier les actes, destin de Joseph, sa conduite. Alors il n'y a pas de moi assez fort pour le louanger, pour le louer. Lui, l'homme juste par excellence, et dans son cœur, aucune jalousie, je le répète, aucune rancœur, nulle haine, ni désir de vengeance, pas de recherche ni de suspicion sur ce qui pourtant existait apparemment, jusqu'à ce que l'ange lui explique. La loi ne lui permet pas de pardonner à une femme infidèle. Or, son épouse est enceinte, sans qu'il soit intervenu, il le sait. Alors, d'autre part, il connaît l'ardeur de l'amour de Marie pour Dieu, amour qui leur a inspiré à tous deux de lui faire le sacrifice de garder la virginité dans le mariage. Comme bien des couples, beaucoup plus qu'on pense. Mais que va-t-il faire? Il ne cherchera qu'à agir comme il le doit, c'est-à-dire généreusement et en toute justice envers celle qu'il aime. Dieu semble lui retirer un amour qui, pour tous les siècles à venir, allait être un modèle. La leçon que nous enseigne ce doute, cette douleur, elle est évidente. Pensons-y, que toutes nos perplexités, tous nos malentendus, bien qu'ils ne comportent aucune rancœur, évitons les rancœurs, évitons les jalousies blessées, évitons les suspicions. Joseph a sans doute eu recours à la prière, et ainsi on doit l'imiter. Dieu lui a répondu par un ange. C'est un événement qui ne nous arrivera pas, c'est sûr. Mais nous savons qu'il nous sera répondu au fond de notre cœur si nous vivons en union avec l'Église, avec les sacrements qui nous sont donnés, avec le Christ qui nous est donné dans l'Eucharistie, avec le sacrement de pénitence et de la réconciliation qui nous permet de nous refaire, de faire revivre Dieu au fond de tout notre être. C'est cette manière-là qu'il faut faire, c'est là que Dieu répond. On peut se demander comment ou quand, mais on sait bien que la parole de Jésus est là. Notre prière, comme celle de Joseph, va apporter à nos inquiétudes et à nos angoisses une solution qui, glorieuse pour Dieu, sera pour notre plus grand bien, pour le bien de ceux que nous aimons aussi, pour le calme dans nos foyers, dans nos amitiés, dans nos milieux de travail. Peut-être reste-t-il dans notre esprit une espèce de tendance à croire à une sorte de subterfuge. On dit « l'incompréhension de Joseph et de Marie » était plus ou moins un faux-semblant pour eux qui étaient si parfaits. Et en somme, ça n'a pas duré bien longtemps, peut-être 2 semaines au plus. Mais ceci, on peut répondre que ce qui manque en durée a été compensé par l'intensité de l'angoisse de Saint-Joseph. Marie et Joseph, étant les plus proches du Sacré-Cœur souffrant de Jésus, sont ceux qui ont le plus souffert. Nous n'avons pas la plus petite raison de supposer que leur vie ait été une vie de douce quiétude, parce qu'ils étaient les plus saints d'entre les saints, voyons. Mais non. Ils étaient heureux, cependant. Ça, nous le savons. Heureux dans leur amour, l'un pour l'autre. Et par-dessus tout, dans l'amour qui les unissait à Jésus, leur Fils, que le Seigneur leur avait donné. Qu'est-ce qui peut nous impressionner le plus dans la vie de Saint-Joseph? Nous avons devant nous la figure du seul homme de toute la race humaine qui ait été digne d'être aimé par Jésus comme un père. Vous qui êtes père, vous savez ce que c'est que d'être aimé comme père? Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus touchant? Quand notre Fils nous dit qu'il nous aime plus que tout au monde, et que nous sommes tout pour lui. C'est quelque chose qui remplit toute la vie. Eh bien, Jésus a aimé Joseph comme un père. Et Joseph a été digne d'être aimé par Marie comme un époux. Vous vous imaginez, vous qui êtes aimé par votre femme, combien cela vous comble et vous remplit d'aise et de joie et de tout. L'univers entier n'a plus d'importance. C'est l'amour que votre femme vous porte qui compte. Eh bien, Joseph était aimé par sa femme, Marie. Est-ce que ça rend pas Saint-Joseph digne d'être aimé par nous, imité par nous, dans l'amour que nous portons, nous, au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie? C'est Bossuet qui disait dans le deuxième panégyrique de Saint-Joseph, qu'il avait prêché devant la Reine-Mère en 1660, il dit en trois lignes et demie des choses admirables. « Joseph a dans sa maison de quoi attirer les yeux de toute la terre, et le monde ne le connaît pas. Il possède un Dieu homme, son fils, et il n'en dit mot. Il est témoin d'un si grand mystère, et il le goûte en secret, sans le divulguer. » C'est vraiment magnifique, ce texte de Bossuet. Et je pense à la lecture du bréviaire aujourd'hui, ou de, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui, le bréviaire, la liturgie des heures. C'est ce beau sermon de Saint Bernard d'Entienne, intitulé « Joseph, gardien fidèle ». Il dit « C'est une loi générale dans la communication de grâce particulière à une créature raisonnable. Lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction, et qui augmente fortement sa beauté spirituelle. Et il ajoute cela, c'est tout à fait vérifié chez Saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus-Christ, véritable époux de la Reine du monde et souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier, le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son fils et de son épouse, fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et c'est très beau ce qu'il ajoute. Il dit, « Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi, par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable? Si donc toute la Sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, après elle, c'est à Saint-Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament. C'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis. Rends-nous propices également, ou plutôt souviens-toi de nous, bienheureux Joseph. Intercède par le secours de ta prière auprès de ton fils présumé. Présumé, c'est une façon de parler dans l'ancien temps, au temps de Saint Bernard d'Entienne. Rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. C'est une belle prière de Saint Bernard d'Entienne.